Salut Julie.
Bonjour Anne-Juliette.
Je te remercie de témoigner dans le podcast aujourd'hui. J'ai hâte d'écouter ton histoire. Je te laisse, si tu veux bien te présenter, nous dire brièvement de quoi on va parler.
Alors, moi c'est Julie, j'ai 43 ans et deux enfants en parfaite santé qui ont 11 ans et 8 ans, Tao et Nora. Et je vais vous parler de l'accouchement de ma première fille, Maïna, qui a eu lieu en août 2011 et qui s'est malheureusement qui a viré au cauchemar et qui s'est pas passé du tout comme je l'attendais.
Donc cet épisode, c'est le deuxième d'une série au sujet d'accouchements loin d'être heureux, mais en tout cas, c'est important d'écouter aussi ces histoires-là. Et je vais te laisser commencer, peut-être si tu veux bien replacer le contexte avec qui tu étais, à quel endroit,
Bien
quel âge
sûr.
tu avais, quel était ton métier, etc. Et comment tu as découvert cette grossesse et tout quoi.
J'avais 30 ans et demi, 2011, donc il y a 13 ans maintenant. Je vivais en Nouvelle-Calédonie avec l'objectif d'y vivre, d'y passer ma vie et de faire grandir mes enfants les pieds dans le sable, avec une culture kanak que j'aime beaucoup et une vie sur les îles plus cool et plus connectée à la nature qu'en métropole. J'avais posé d'abord une année sabbatique. J'y suis allée vivre et travailler. Et on est
Et
revenu
avec un mec ou
en
comme ça toute seule?
alors, toute seule. Et il se
Ok.
trouve que quand je me suis renseignée pour partir là-bas, avec des groupes d'expatriés pour savoir ben voilà, comment vivre, pour trouver une colocation, pour des petits boulots, etc. Il se trouve que je suis retombée sur mon amoureux de jeunesse, qui j'étais amoureuse en primaire, qui vivait là-bas, lui qui était déjà installé là-bas. Et donc, de fil en aiguille, on a parlé pendant des mois, d'abord sur la vie pratique sur les îles, puis sur nos vies respectives. Et puis, tant bien que quand j'y suis retournée, mais je me suis installée en colocation avec lui directement. Et donc, on est d'abord passé une année sabbatique, enfin moi en année sabbatique, lui travaillait là-bas. Et puis on est rentré en France parce que ma maman était malade, et donc je voulais être à ses côtés. On s'est organisé pour pouvoir repartir et y vivre définitivement cette fois-ci, donc avec le conteneur, toute une logistique derrière qui est assez complexe pour y faire venir nous-mêmes nos affaires personnelles, s'installer dans l'idée de ne pas rentrer en fait, de construire ma vie là-bas. Et je repars enceinte de 6 mois et demi et on s'installe là-bas et j'ai une grossesse vraiment assez facile. J'ai eu le vomissement au début de la grossesse, là, les nausées, etc. Mais sinon, enfin voilà, je fais 22 heures de vol, je fais les 36 heures de voyage, j'ai l'autre bout du monde enceinte quand même bien, à un stade bien avancé et tout se passe vraiment très bien. Là-bas, donc je suis suivie au début de ma grossesse à Bordeaux par mon obstétricien, etc., puisque c'est la ville de laquelle je proviens et où j'habite actuellement. Donc je trouve une sage-femme sur Nouméa et je m'inscris à la clinique privée de Nouméa. 3 semaines avant le terme, je commence à avoir des symptômes qui, a priori, sont assez classiques lors d'une grossesse. Sauf que là, d'un coup, je vomis et je ne garde plus rien de ce que je mange. J'ai des remontées acides assez difficile. Je me rends une première fois à la maternité. On m'explique que ce sont des symptômes classiques de la fin de grossesse ou de la grossesse. Donc, il me renvoie chez moi et en m'expliquant que c'est normal d'avoir ce genre de symptômes, que c'est pas inquiétant, etc. Donc, jusque-là, je leur fais confiance. C'est ma première grossesse, j'ai pas trop de recul. Et donc, je repars chez moi. Sauf que, je sais pas, il doit se passer 3, 4 jours et c'est de pire en pire. Les brûlures acides. Enfin, voilà, désolé des détails, mais je vomis, je ne garde absolument rien. Et je suis vraiment très mal quand je me rends la deuxième fois aux urgences de la maternité. Et où là, on fait un monitoring du bébé quand même, et on me dit que ben, le bébé va bien, qu'il n'y a pas de raison, et que c'est pas encore mon terme, donc que je dois être patiente et courageuse jusqu'à la fin. Donc j'essaye d'être patiente et courageuse jusqu'à la fin, sauf que je me sens de plus en plus mal. Une amie à moi qui vit avec moi en Nouvelle-Calédonie me dit, écoute, Julie, t'es pas bien, t'es toute blanche, tu trembles, tu gardes rien de ce que tu manges, on retourne aux urgences. On repart aux urgences le matin du 18 août 2011. Et là, ils me disent, mais quoi, qu'est-ce que vous voulez encore? Non, c'est pas le moment d'accoucher. On vous a dit que tout allait bien. Et on me renvoie un petit peu balader. Du coup, je rentre chez moi. Et là, dans la même journée, je commence à avoir les premières contractions assez rapprochées. Je me rappelle à appeler mon homme qui travaillait à l'époque. Je lui dis que ben, je crois que le travail commence, etc. Le temps qu'il arrive, je perds le bouchon muqueux, qui est pas très joli. Mais bon, j'en ai jamais vu, donc je ne sais pas trop à quoi m'en tenir. Et je suis vraiment très faible. Je n'ai toujours rien mangé depuis plusieurs jours. Mais un peu prise dans l'euphorie du moment et contente de que ça soit enfin le moment et que ma puce arrive. Donc on se dirige en voiture à la clinique de Nouméa et je perds les os dans la voiture. On arrive in extremis et je me rends de suite aux urgences de la maternité. Elles me reçoivent. Tout de suite, elle me pose la péridurale. Tout se passe très, très vite et plutôt facilement. En même pas 4 heures, j'accouche par voie basse, de manière naturelle, de ma petite puce. L'accouchement en lui-même m'a pas paru très éprouvant et fatigant, mais mon état général, j'étais déjà en fait épuisée, fatiguée en arrivant, fait que je suis extrêmement... faible et encore une fois les hormones, l'endorphine, etc. de l'accouchement me donnent comme des super pouvoirs et je suis hyper contente de moi qu'en 3-4 heures ma puce soit là, etc.
Et quand tu dis faible, c'est quoi exactement?
C'est difficile de te décrire, mais comme si je faisais appel à des forces profondes, tu vois, au fond de moi, comme si j'utilisais mes dernières forces en fait pour accoucher. Vraiment, tu te sens presque pas là, quoi. Presque comme si c'est pas toi qui contrôle, comme si c'est ton corps et une mécanique qui prend le relais pour pouvoir mener à bien cet accouchement. Je ne me pose même pas la question en fait. J'accouche simplement.
Puis comme c'était ton premier accouchement, t'avais pas d'éléments.
Exactement. Ouais. Exactement. Donc tu vois, je ne me pose absolument pas de questions. Autant quand je suis rendue, que j'étais pas bien, que je me suis rendue plusieurs fois à la maternité, je me rendais compte que c'était pas normal mon état, que il y avait quelque chose. Mais encore une fois, pas d'éléments de comparaison. Donc je fais confiance au personnel médical, etc. Je rentre chez moi, je prends mon mal en patience, j'essaye de faire passer les remontées acides, les vomissements, etc. Autant là, je me pose absolument pas de questions. J'y vais, j'accouche. Et puis tu sais, t'as cette douce euphorie de ça y est, elle arrive enfin, quoi, tu vois. Et donc là, je donne tout, c'est maintenant. Ce qui compte, c'est qu'elle aille bien et qu'elle soit là.
Bah alors, justement, quand elle sort, tu l'entends pleurer?
Alors, le fameux... Non.
D'accord.
Elle sort, je ne l'entends pas pleurer. Et là, j'entends juste la sage-femme, dans mon souvenir, qui dit Oh là là, le liquide amniotique n'est pas clair. Ça va pas, et elles partent dans une pièce à côté avec Maïna. Arnaud reste à mes côtés, et puis là se passe quand même, je suis incapable de te définir le temps, mais des 5 longues bonnes minutes, quoi. Et toujours pas de cri de bébé. Mais à ce moment-là, je ne me demande pas comment ça se fait qu'elle pleure pas. Tu vois, c'est mon premier accouchement, et j'ai pas ce truc de me dire, je l'ai pas entendu pleurer. Ça me vient pas de suite. Je me dis juste, elle l'a emmenée à côté pour la nettoyer, pour faire les trucs de naissance. Ils vont nous la ramener, quoi. À ce moment-là, Arnaud décide de sortir aller voir. Donc, tu vois, il a dû quand même se passer un temps qui fait que mon mari se dise, tiens, je vais aller voir, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être que lui, il a vu des choses que moi, j'ai pas vues, tu vois, mais il décide d'aller voir. Et là, j'entends Arnaud hurler. Je l'entends hurler et il s'écroule dans le couloir. Et là, clairement, je comprends. Enfin, je sais pas comment te dire, je comprends, sauf que tu peux pas l'accepter ou tu peux pas l'entendre là dans l'immédiat, mais je comprends qu'il y a quelque chose de terrible. Et la sage-femme revient avec Arnaud sous le bras et là ils me disent on est désolé, il y a quelque chose qui va pas, elle respire pas, elle est pas vivante. Elle emploie quand même le mot elle est pas vivante. Elle me dit que c'est fini. Et là, je peux même pas te décrire. Je peux pas. C'est t'as le souffle coupé, là, tout s'écroule. elle était là. Enfin voilà, tu vois, j'ai accouché, j'étais fière de moi. Et là, d'un coup, tout ce que tu as mis là-dedans, tout s'effondre. J'ai quand même, je trouve, été quand même dans l'acceptation de la réalité assez rapidement. Et là, j'arrive à peine à aligner. On peut pas la sauver. On peut rien faire. Et là, elle me dit non. Elle me demande si je veux la voir. Je dis oui, bien sûr, de suite. Tu vois, j'ai aucun moment d'hésitation. C'est de suite, il me la faut. Faut que je la récupère. Donc là, il me l'amène. Juste avant ça, elle avait fait une prise de sang pendant l'accouchement pour voir pourquoi j'étais si faible, pourquoi le liquide était teinté, etc. Enfin, tu vois, j'avais fait. Et puis, elles avaient un autre résultat de ma visite dans le matin même. Du coup, elle m'amène Maïna. Et là, je me rappelle d'un moment d'une infinie douceur. C'est bizarre de dire ça, mais elle avait le visage rose. Tu sais, elle n'avait pas encore les traits d'un bébé mort. Et du coup, j'ai fait le tour de son visage. Ça a duré à peu près 1 heure. Et j'ai fait tous les contours de ses traits, les sourcils, le tour de son visage, tenu sa petite main, etc. Je l'ai gardé près de moi.
Et le papa était avec toi à ce
Ouais,
moment-là?
complètement. Il est sorti au milieu de ce moment-là. Il est sorti. Par la suite, il m'a raconté qu'il est sorti. Il est allé fumer une cigarette dehors. Il est tombé sur une mama canaque, puisqu'on était en Nouvelle-Calédonie. Il est tombé sur une mama canaque à l'entrée de la maternité. Et mama canaque, tu sais, c'est le peuple noir qui est originaire de Nouvelle-Calédonie. Et il s'est effondré en larmes dans les bras de cette femme qui ne lui a rien demandé, qui l'a pris dans ses bras et qui lui a fait un câlin. Je trouve ça assez symbolique. Et en tout cas, heureusement que j'ai eu ce temps-là où ils me l'ont ramené assez rapidement et où j'ai pu m'imprégner des traits de ma fille, la voir, la sentir. Et je suis forcément comme toutes les mamans qui vivent ça dans un état choqué, un état second. Je sais même pas comment les informations, elles arrivent plus à ton cerveau là. Je savais juste qu'il fallait que je profite intensément de ce moment. Et je la trouvais belle, je la trouvais parfaite, et c'était trop injuste et tout ça. Mais tu vois, t'es dans un espèce de, je sais pas comment dire, de monde parallèle quoi. C'est pas réel. Et là, une infirmière, il me semble, peut-être une sage-femme, arrive dans ma chambre, donc à la fin de ce temps, et me dit, c'est pas normal, dit à la sage-femme qui est avec moi, c'est pas normal, ces analyses correspondent à quelqu'un qui est dans le coma. Bon, elles disent, bon, on va refaire les analyses, il doit y avoir un souci avec les résultats, on les refait. Tu vois, elles se disent pas, que c'est possible que je sois, avec eux, avec les analyses qu'ils ont, donc ils refont des analyses. Donc là, ils me prennent Maïna, je le vis pas tellement comme un déchirement, c'est comme si, voilà, ce moment-là m'a convenu, en fait, clairement. Et bon, bien sûr, je suis complètement faible, complètement choquée, enfin, je suis effondrée, hein, mais je redonne ma fille dans le calme, tu vois, j'ai pas l'impression qu'on me l'arrache ou que quoi que ce soit, tu vois, je la confie à la sage-femme. Arnaud était remonté, hein, depuis. Hein,
Est-ce que à ce moment-là, il y avait de la famille ou des proches
Alors,
qui attendaient de vos nouvelles ou vous aviez gardé un peu le...
en fait, comme il était tard dans la nuit et qu'il y a un décalage horaire de 10 heures avec la métropole, personne ne sait qu'on est à la maternité,
Attendez,
personne
ok.
ne sait qu'on a perdu Maïna. La seule qui le sait, c'est une amie qui est là-bas, qui a elle-même une petite fille de 7 mois, et avec qui j'ai envoyé un message en partant à la maternité pour dire ça y est, c'est le moment, si tu veux. Et
D'accord.
sinon, personne n'est au courant.
Ok.
Là, Arnaud, dans le couloir, appelle ma mère. Il devait être très tôt le matin pour lui annoncer la triste nouvelle. Donc là, ma mère est bouleversée, elle en vomit, elle se dit il faut que je prenne le premier avion pour arriver. Donc elle s'organise pour me rejoindre le plus rapidement possible avec mes sœurs ou avec ma sœur, elles savent pas encore. Enfin bon, voilà. Arnaud me dit qu'il a annoncé à ma mère. Et ma mère, bam, premier coup de poignard dans ma famille. Et puis là, la copine en question à qui j'ai envoyé le message à Nouméa vient avec sa fille parce qu'elle n'a personne pour garder sa fille, vient à mon chevet. Les infirmières et la sage-femme disent, je les suis après, à Arnaud, ce serait bien que vous retourniez à la maison parce que là, on n'a aucune raison de la garder très longtemps. Je pense qu'elle pourra sortir ce soir ou demain. Et du coup, ce serait bien de camoufler les affaires du bébé. Arnaud s'exécute, rentre à la maison, prévient toute sa famille, sa mère, voilà, mes sœurs, etc., nos amis proches du drame, et s'en va ranger toutes les affaires de la chambre. Et là, mes analyses reviennent entre-temps. Et ma sage-femme, avec qui j'avais fait la préparation à l'accouchement à Nouméa, arrive à mon chevet et vient me voir. En me disant qu'elle est complètement désolée, etc., que c'est terrible, que ça va être long, mais que je vais y arriver, que je vais être forte. Elle a des mots très apaisants, réconfortants, etc. Et là, elle bloque, elle me regarde, et elle me dit, mais écoute, tu es jeune, quoi, tu es jeune, couleur pomme golden, quoi, que c'est pas normal, c'est bizarre. Et elle avait eu, il y a quelques années, perdu une maman sur le parking de la maternité suite à une préclampsie qui n'avait pas été bien diagnostiquée. Elle avait fait une hémorragie. Et donc, si tu veux, elle avait cette phobie de me laisser repartir comme ça, alors qu'on ne savait pas comment et pourquoi j'avais perdu Maïna et qu'est-ce qui s'était passé. Donc, cette sage-femme interpelle le personnel médical à ce moment-là et dit « c'est pas normal, elle est toute jeune, regardez, il y a un problème au foie. » Et les autres disent « ben ouais, ces analyses ne sont pas bonnes du tout. » Elle a le foie qui déraille, elle devrait être dans le coma, elle devrait même pas être consciente à ce moment-là, et on comprend pas, donc on l'envoie en soins intensifs. Sur ce, ma copine Amandine arrive avec ce fameux bébé, avec sa fameuse fille là, à mon chevet pour me soutenir, me faire un bisou, et voir, vu qu'Arnaud lui avait dit que Maïna n'avait pas survécu, elles arrivent aussi en catastrophe avec sa fille, elles me tiennent la main toutes les deux, sont à mon chevet, et là, je pars. Là, moi, c'est vraiment l'instant où je pars dans le coma. Même si mes analyses disent que je suis partie avant, pour moi, c'est l'instant où j'ai décroché, je pars, et je ne me souviens plus de rien à partir de là.
Et quand tu pars dans le coma, en fait, concrètement, même si toi, tu l'as pas vu, ta copine, elle a dû te raconter qu'est-ce qui se passe de façon concrète.
C'est, moi, je suis tombée dans les pommes.
Ah ouais, oui, t'es tombée dans les pommes, ouais, d'accord.
Je m'endors, quoi, je suis plus là. Et donc, il m'envoie à l'hôpital Gaston Bourré de Nouméa directement en soins intensifs. Et là, ils appellent Arnaud pour leur dire que je suis transférée en soins intensifs, qu'il faut absolument revenir et que ça ne va pas du tout. Bam, rebelote, ils me retrouvent à l'hôpital le plus rapidement possible. Et là, toutes mes constances commencent à lâcher. En fait, on le comprendra plus tard, mais ça vient du foie, et donc le foie, ça contrôle les reins, ça contrôle les poumons, etc., la respiration, et donc tout commence à dérailler, mes organes commencent à lâcher les uns après les autres, et donc je suis plongée dans un coma artificiel, là, en arrivant. Ils en rajoutent, en fait, pour préserver mes organes et pour que je m'économise au plus, ils me plongent dans un coma artificiel. Donc là, la suite, c'est ce qu'on m'a raconté. Hein. Du coup, on prévient ma famille. On annonce à Arnaud que je ne passerai certainement pas la nuit, que mon état est très grave, hein, qu'ils ne savent pas ce que j'ai, mais que ça vient du foie et que tout est en train de foutre le camp. Donc là, ben, mes amis de Nouméa, etc., tout le monde vient à mon chevet. Arnaud appelle mes parents, etc. Là, on annonce à ma mère que le temps qu'elle arrive, je ne serai certainement plus là. Juste terrible, enfin, tu vois, j'ai vécu un truc horrible, mais en même temps, j'ai embarqué ma famille dans une espèce d'épreuve d'un autre monde, quoi. Tu vois, c'est terrible. Donc, elles ont fait, enfin, pour aller à Nouméa, c'est 2 fois 11 heures de vol sec, donc c'est 22 heures de voyage au minimum. Avec les escales, tu rajoutes à peu près une trentaine d'heures de voyage. Elles ont fait tout ça pensant que quand elles arriveraient, ce serait trop tard, quoi. C'est vraiment terrible. Donc, c'est ma mère et ma sœur, la mère d'Arnaud et sa tante qui sont venues à notre chevet. Et moi, pendant ce temps, je suis dans le coma, aux soins intensifs. Et chaque jour, on leur dit qu'on ne sait pas ce que j'ai, on ne sait pas d'où ça vient, on ne pense pas que je vais survivre et donc je ne passerai pas la nuit. Donc, pendant 3 jours, comme ça, il se passe que je ne passerai pas la nuit. Et que il me faut d'urgence une greffe de foie. Donc ça, c'est quand ma mère et ma sœur arrivent, la mère d'Arnaud, etc. On leur explique qu'il me faut d'urgence une greffe de foie, sauf qu'il n'y a pas de greffe sur le territoire calédonien et que je ne suis pas transportable ni au Japon ni en Australie. Donc là, c'est le drame. Là, ma mère a remué ciel et terre. Ils essayent de faire venir un cargo militaire pour essayer de me transporter, mais je ne suis pas transportable. Donc, enfin, tu vois, le problème est toujours le même. Et moi, de tout ça, je ne me rappelle uniquement, j'étais dans un fond bleu marine un peu, et je revoyais toutes mes chutes, mes blessures, mes disputes d'enfant. Pas des trucs forcément graves, tu vois, quand j'ai chuté sur la plage, quand je me suis blessée au ski, et je revis tout ça sous un fond bleu nuit, en boucle, comme ça, un peu toutes les épreuves un peu bizarres, et j'entends. J'entends les voix et j'entends surtout les chansons. Mais je ne suis pas là, je ne comprends absolument pas, et puis j'ai encore rien qui fonctionne. En fait, je suis sous dialyse, je suis sous respirateur artificiel, je suis dans une machine de compression, décompression. C'est très difficile à expliquer parce qu'en plus d'avoir perdu ma fille et d'être partie dans le coma sous un événement tragique et triste, j'ai connu ce coma-là, tu vois, et donc j'ai personne autour de moi. Heureusement d'ailleurs, qui a vécu ces deux épreuves simultanément, et c'est très particulier ce que tu ressens, ce que tu vis, tout ce que mon corps, mon esprit, mon âme a ressenti à ce moment-là, je peux même pas te le raconter. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas vu de lumière au bout du tunnel ou quoi que ce soit. J'ai senti une force d'amour intense qui m'entraînait à me battre et à continuer. Parce que clairement, j'ai ce souvenir quand même d'avoir envie de baisser les bras, que ça s'arrête, de rejoindre ma fille, de je sais pas comment le dire autrement, tu vois, de stop quoi, tu vois, de me laisser couler, de me laisser partir. Et j'avais toujours cette espèce, tu sais, d'amour, de main tendue là, de force d'amour qui me disait non, lâche pas, reste avec nous. De manière inexpliquée, mon foie a commencé à se régénérer plus vite que la moyenne. Il n'avait toujours pas mis de diagnostic sur la maladie. Et ils l'ont posé grâce à mes médecins de Bordeaux qui avaient déjà eu le même cas que ma maladie des années auparavant, parce que c'est une maladie qui s'appelle la SHAG, la stéatose hépatique gravidique aiguë, qui arrive à une femme sur 150 000 et qui est à 98% mortelle pour le fœtus et la maman, sauf s'il y a une greffe de foie ou que c'est diagnostiqué à temps. En fait, c'est un empoisonnement par le foie entre la maman et le fœtus. Donc, on s'empoisonnait mutuellement toutes les deux. Et en fait, ça se déclare sur le dernier trimestre.
Ah bah ouais, ça correspond. Ouais.
Et les symptômes sont bénins. Vomissements, remontées acides, brûlure d'estomac. Et donc, ils finissent par poser le diagnostic. Mais toujours pareil, je n'ai pas de greffe de foie possible, donc je ne vais pas m'en sortir. Et là, mon foie se régénère plus vite que la moyenne. Au bout de 5-6 jours. Et là, les médecins parlent d'absolument de miracle parce que je suis en train de me battre et de sortir de ce coma par moi-même. Et donc, ils décident de diminuer la dose du coma artificiel pour me laisser prendre le dessus et que je puisse sortir du coma. Donc là, il se passe toute une période qui, pour moi, je ne suis toujours pas là, hein. Je n'ai pas de souvenir de ça, où a priori je me bats très fort, où ils n'arrivent pas à expliquer comment ça se fait que j'arrive à m'en sortir, etc. Mais ils diminuent et je sors du coma. Donc là, ma famille, enfin tout le monde est porté par une joie immense de me revoir revenir. Mais moi, je me réveille avec le souvenir d'avoir perdu ma fille. Et là, je vois tout le monde heureux, joyeux, et je comprends rien, en fait. Enfin, tu vois,
c'est ah ouais, ok.
Irréel, c'est complètement en désaccord avec ce qui se passe dans mon corps, etc. Là, clairement, j'ai eu envie de mourir. Là, j'avais envie qu'on me laisse tranquille, si tu veux. J'avais envie que ça s'arrête, j'avais envie que ça prenne fin, quoi. Et puis, j'avais envie de rejoindre encore Maïna à ce moment-là.
Et tu pouvais parler, tu parlais à tes proches et tout.
Ouais, je pouvais parler, par contre, je ne pouvais pas m'asseoir, pas attacher mes cheveux, pas tenir une fourchette, rien. Tu vois, j'étais en état de légumes parce que le coma te fait perdre très vite tes fonctions motrices et tes muscles, en fait. Tu n'as plus aucune force, tout est flasque, tout est mou, etc. Donc, ouais, non, je suis dépendante entièrement du corps médical, que je remercie d'ailleurs. Ils me mettent ensuite de soins en maternité, donc j'entends des enfants pleurer, j'entends des naissances, j'entends la salle d'accouchement, j'entends la nurserie, c'est horrible. Et là, pour la première fois de ma vie, je comprends ces femmes qui, tu sais, vont dans les nurseries et volent les bébés ou prennent un contre elles et tout. C'est fou, c'est un truc que je comprenais vraiment pas avant. Je me disais qu'elles étaient des grandes barjots. Et en fait, maintenant, je comprends parce que j'avais cette envie viscérale de prendre un bébé et de le serrer contre moi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, pas de le voler, etc. Mais Et à chaque fois qu'un bébé pleurait, ça me prenait aux tripes comme si c'était Maïna, tu vois, et ça me donnait envie d'y aller. Enfin bon, c'est intense comme moment et comme témoignage, mais donc voilà. Après, elles ont fait en sorte de m'isoler, de me mettre dans une chambre plus loin, etc. Je ne peux pas m'asseoir, je peux rien faire et c'est très difficile. Et je prends le parti de me concentrer sur ma rééducation physique, en fait. Un pas après l'autre, mais physiquement. Donc, mon but et mon objectif, c'est d'arriver à tenir une fourchette, d'arriver à attacher mes cheveux, d'arriver à m'asseoir. Et progressivement, s'ensuit une longue rééducation pour pouvoir arriver à faire les choses toute seule. Et donc, chaque jour, je fais des petits progrès, etc. Mais je suis triste, je suis tellement, enfin, c'est même pas, je peux pas te le décrire, je suis tellement, et puis tu te poses plein de questions et j'en passe par toutes les étapes de la culpabilité, de pourquoi j'ai été accouchée à 22 000 bornes, pourquoi je vis sur les îles, et si j'avais fait ça, et si j'avais fait ci, puis ensuite la colère, l'injustice, enfin, tout se chamboule, la tristesse, et puis le pourquoi nous, et enfin, j'en suis passée par tellement d'étapes comme ça. Et puis faire vivre ça à mes proches, tu sais, comprendre tout ce qu'ils ont vécu. Et puis financièrement aussi, se déplacer à Nouméa, etc. Enfin, tu vois, ça prend des ampleurs, le truc surréaliste. Et puis, j'ai un besoin, dès le départ, intense, de refaire, tu sais, de retricoter tout ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Tu vois, du moment où j'ai fait le contour des traits de Maïna jusqu'à ce que je sois vraiment bien réveillée, j'ai un besoin qu'on m'explique les jours, les dates, les comment, les diagnostics, et je sais pas comment te dire, comme si j'avais besoin de refaire ce pulse pour continuer d'avancer. Et puis très lentement, un jour après l'autre, un pas après l'autre, je commence à réussir à faire des choses physiquement. Je me rappelle de ma copine Marie qui emprunte un fauteuil roulant, qui me descend en bas de la maternité pour me faire prendre le soleil, chose qui est assez régulièrement présente en Nouvelle-Calédonie. Et là, elle me prend avec ce fauteuil. Alors, elle me fait courir dans les couloirs, elle fait la folle. Elle me descend et là, je ressens le soleil sur ma joue, le vent dans mes cheveux. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment ce jour-là, ce moment-là, où d'une, j'ai compris l'importance et la chance d'être vivant. Je me suis dit, j'ai vraiment réalisé que j'étais miraculée. J'ai vraiment réalisé que j'avais plus envie de partir et plus envie de gâcher cette vie. Je me suis juré de ne faire que des choses qui avaient du sens à mes yeux et de ne pas gâcher cette seconde chance. Et je l'ai juré à ma fille, en fait. Je me suis dit, Maïna, t'es pas partie pour rien, maman, elle est là. Je sais que j'ai beaucoup de chance d'être ici et je vais faire des choses qui me plaisent et je vais faire des choses qui sont belles et qui résonnent en moi et je vais essayer d'aider un maximum de monde à aller bien, à être heureux et moi la première. Vraiment un pacte avec moi-même, un pacte avec ma fille de putain, je vais pas la gâcher cette seconde vie, quoi. Donc, s'en est suivi encore beaucoup de temps, hein, la maternité. Et puis, de toute façon, je ne pouvais pas prendre l'avion pour regagner la métropole pour des risques d'embolie pulmonaire, etc.
À ce moment-là, votre retour, il s'impose à vous. Enfin, il est décidé.
Ouais, franchement,
D'accord.
assez rapidement, je ne pourrais pas te dire encore une fois vraiment quand, mais dès que je commence à bien réaliser ce qui se passe, etc., le choix du retour ne se pose même pas. Après, on savait pas si c'était définitif ou pas, hein, mais dans tous les cas, il fallait qu'on rentre. Et puis, j'avais besoin de faire des tests génétiques, de savoir un petit peu cette maladie, comment, d'être soignée par les gens qui avaient diagnostiqué, tu vois, en France, avec les
D'accord.
soins et tout. Et puis, d'un coup, la distance, elle prend tellement un rôle dramatique que t'as plus du tout envie de mettre de distance entre toi et les gens que t'aimes. C'est plus possible, quoi. Tu vois, ça prend tellement une tournure catastrophique. Et puis les gens que j'aime, ils avaient qu'une envie, c'était de me retrouver. Et puis mon père a pas pu voyager, enfin tu vois. Mais avant ça, il y a eu le fait que j'ai dû assimiler qu'ils avaient incinéré Maïna pendant que j'étais dans le coma, forcément.
Ah là là.
Je devais pas m'en sortir et puisque tu peux pas faire traîner cette formalité trop longtemps, du coup ma maman, ma sœur, Arnaud. Sa mère, sa tante sont assistées au funérarium à l'incinération de ma fille. Et ça, j'ai eu énormément de mal à l'accepter. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai pas vraiment accepté, mais c'est comme ça. Ils pouvaient pas faire autrement. Je leur en veux absolument pas, mais tu vois ce que je veux dire. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Pouf, une urne. Il me restait une urne de ma fille et j'avais pas été là pour l'accompagner dans ce moment-là. Et ça, c'est terrible. Enfin, c'est vraiment un truc qui a été vraiment très difficile à m'avaler, à accepter, à contourner. Et c'était pas possible, tu vois, qu'elle soit partie sans moi, que j'ai pas été là, que j'ai pas dit de texte, que j'ai pas choisi la chanson. Enfin, c'était terrible.
Vous avez pu ramener l'urne de Maïna.
Ouais, exactement. Ah, oui. Ça, c'est vrai que Nouméa était super, la mairie, etc. Que ce soit pour le livret de famille, l'ont noté en premier enfant, que ce soit pour le rapatriement de l'urne, j'avoue, vraiment, les gens, administrativement parlant, nous ont aussi facilité quand même la tâche dans le malheur. Je sors de l'hôpital, ma mère, ma sœur, ma mère, tout le monde regagne la métropole. Et donc, c'est assez difficile comme moment, tu vois, d'être encore séparés, etc. Et j'ai pu rentrer auprès de mes proches en octobre. Et donc, on rentre. Mon papa nous met à disposition un petit appartement, un petit studio qu'il louait. Tout est meublé. Et là, les mois qui ont suivi, ça a été un peu comme une introspection, une hibernation, où j'étais complètement coupée du monde réel. C'est là que commence la mémoire du corps. Et tous les 19, qu'on soit en pleine nuit, que je fasse quelque chose, que je fasse la fête, qu'on sorte. Enfin, la fête, je faisais pas la fête à cette époque-là, mais que je sois en famille ou que je sois debout, que je sois au lit, mon corps, tous les 19, s'est mis à vomir, à être mal, à frissonner, etc. J'ai eu une espèce de mémoire du corps qui a duré 6 mois, là, comme ça. Ça a été terrible.
Et c'était quoi tes perspectives ou tes envies pour la suite? Tu voulais rester vivre
rien,
en France?
Rien. C'est le néant, tu sais pas. Je voulais être en vie et j'étais contente d'être en vie et j'avais pas l'intention de baisser les bras. Hein. Je l'ai eu que au tout début, cette intention-là. Mais le reste, que dalle, néant. Moi, tout de suite, rapidement, j'ai essayé, tu sais, de saisir tous les petits moments, boire un thé avec les copines, manger des petits gâteaux. De toute façon, je détestais ce corps de maman sans enfant. Là, j'étais grosse, flasque, vide, meurtrie, quoi. Tu vois, c'était terrible. Le postpartum sans enfant, c'est costaud aussi à s'avaler. Et du coup, j'essayais de faire des masques pour mes cheveux, de prendre des petits instants, d'aller me balader sur la plage, le coucher de soleil. Et ma famille m'a offert un chaton, meilleure chose de tous les temps, qu'on a appelé Kanaki, hein, en référence à la Nouvelle-Calédonie. Ils m'ont offert ce petit chat qui m'a clairement fait partie du sauvetage de ma vie. Parce que ben tous les deux, Arnaud aussi, hein, pour le coup, on s'est complètement concentré sur ce chaton. Et là, très rapidement, là je te parle, on est en décembre, j'explique à ma famille, à Arnaud, à tout le monde, qu'il faut absolument que je fasse une cérémonie pour Maïna et que j'organise des obsèques, quoi, que je lui fasse un hommage, que je fasse quelque chose. Et qui, pour moi, je me suis complètement lancée là-dedans, en fait. Tu vois, j'ai écrit un très beau texte, choisi la musique. On a porté l'urne dans le caveau familial de mes grands-parents maternels. Et j'ai fait cette cérémonie qui, pour moi, a été indispensable et qui m'a permis vraiment de dire au revoir, hein, de manière plus présente et un peu mieux, même si à ce stade-là, j'en étais pas encore à l'acceptation et à dire au revoir. Mais vraiment, ça m'a aidée. Et là, par contre, tu vois encore le gros décalage, c'est que Arnaud, il a eu l'impression d'enterrer sa fille 2 fois, quoi. Ça a été terrible pour lui de revivre ça. Et tu vois le décalage, comment il se creuse petit à petit entre... dans notre propre expérience, c'est compliqué. Par contre, ce moment, pour moi, a été vraiment salvateur, beau. J'ai encore franchi une étape à ce moment-là, en paix. J'ai pu lui dire les mots que j'avais envie de lui dire. J'ai eu tous mes proches, tantes, cousins, parents, beaux-parents. Enfin, voilà, tout le monde était là. Et donc, c'est vrai que cette cérémonie a été très importante pour moi et salvatrice. J'ai passé un autre cap. Et puis là, je décide de commencer à aller me faire aider quand même par un psy. Je décide de me faire accompagner quand même, tu sais, pour essayer de sortir de cette hibernation, de cette tristesse et tout. J'en étais arrivée à un stade où je supportais plus de pleurer, j'en pouvais plus, je voulais plus. En plus, c'est tellement pas moi, la tristesse, tu veux, c'est vraiment une émotion que je connaissais pas et elle m'envahissait au volant, tout le temps, et j'en pouvais plus. J'étais là, mais c'est pas possible de autant chialer, en fait. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et donc, sur les conseils de mon médecin traitant, que j'adore, je vais voir une psy à Place Gambetta à Bordeaux, assez reconnue, une nana a priori très bien, et je lui raconte mon histoire, et là, elle fond en larmes, et elle me dit « Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous suivre ». Et en fait, maintenant, je comprends qu'elle a été d'une franchise extrême et que ça faisait résonance chez elle et qu'elle a eu bien raison de me le dire. Sauf que à l'instant T, quand je vais chez elle, que je lui raconte qu'elle pleure et qu'elle me dit ça, je me dis, mais en fait, c'est tellement horrible ce que j'ai vécu que personne va pouvoir m'aider, quoi. Parce que, en fait, j'avais toujours, et je l'ai toujours encore un peu, ce sentiment que le coma, la distance, la maladie, le deuil périnatal, c'est trop de trucs. Personne n'a vécu ça en
Ouais,
même temps, enfin, tu vois.
je vois.
Et donc, je trouvais pas ni de témoignage, ni de soutien, ni de compréhension totale. Parce que, aussi ouvert que soient mes proches, aussi attentif, aussi communicant, etc., personne ne pouvait, ne peut et ne pourra jamais vraiment comprendre ce que j'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop, quoi. C'est sur trop de plans, ça implique trop de choses. Et donc là, je me dis, putain, c'est chaud, quoi. Personne va m'aider, quoi. Et j'ai décidé de me tourner vers les thérapies alternatives. Et j'ai été faire de l'EMDR. Et j'ai été voir un énergéticien aussi. Et ça m'a aidé vraiment. Et l'énergéticien, j'ai fait de la sophrologie et j'ai commencé la méditation. J'ai commencé yoga, méditation et tout. Et clairement, toutes ces techniques-là de médecine douce m'ont sauvée. Je ne peux pas te le dire autrement. Ça m'a permis de faire une introspection, de m'aimer, de m'écouter, de lâcher, d'accepter. Et ça a été le début pour moi à ce moment-là du chemin vers ma résilience et vers l'acceptation inconsidérée de tout ce qui se passe dans ma vie comme de bon et comme de mauvais, de ma phrase fétiche du rien n'arrive par hasard et tout a un sens. Et si je devais traverser ça, c'est que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui et que sans ça, je saurais pas ce que je suis, ce que je fais et j'aurais pas réussi à vivre de ma passion, à faire le métier que je fais aujourd'hui. Enfin, tu vois, tout ça a enfin pris un sens pour moi. Alors c'est très subjectif, c'est mon sens à moi et c'est la route et la signification que j'ai voulu lui donner. Mais pour moi, Maïna, elle est vraiment passée ici pour me faire prendre conscience que j'avais qu'une seule vie, que je devais faire que des choses que j'aimais, que je devais être dans la paix, la bonté, le partage. Et qu'en plus, elle a insufflé ça à toute ma famille, à mes amis proches. Tous mes potes, ils te diront, il y a eu un avant et un après Maïna, en fait. Et eux aussi, ça leur a donné envie de profiter de leur enfant vivant, de leur santé, tu vois, de cette vie qui tient qu'à un fil, etc. Et ça a une force d'amour et d'espoir incroyable. Et je préfère lui donner ce sens-là et me raccrocher à ça qu'à autre chose. Et c'est là qu'a résonné, tu sais, ce pacte que j'ai fait avec moi-même sous le soleil de Nouméa, là, en me disant de faire que des choses qui avaient du sens, où j'ai commencé à me reconvertir complètement. J'étais formatrice à la Caisse d'Épargne pendant des années. Et du coup, je me suis formée d'abord à l'éveil corporel et créatif pour les enfants, puis le yoga, le baby yoga. J'ai fait 2 ans de kinésiologie. Donc aujourd'hui, je suis kinésiologue, professeure de yoga enfant, thérapeute et j'ai monté un centre de formation bien-être d'accompagnement à l'enfant.
Et de façon concrète, donc tout ça a duré combien de temps? Et ensuite, que s'est-il passé pour toi? Est-ce que...
Alors, c'est très difficile de te dire ça a duré combien de temps parce qu'en fait, ça dure encore, tu vois, c'est un travail de tous les jours, etc. Mais effectivement, j'ai commencé à aller de mieux en mieux avec des grosses périodes de rechute et puis des dates anniversaires encore très difficiles et tout. Mais je te dirais que vraiment, ça a été dur la première année. Vraiment, la première année, c'était terrible. Et après, ça s'est allégé. Et après, j'ai fait aussi les analyses à Pellegrin, là, de génétique, qui m'a confirmé que la SHAG, donc la stéatose hépatique gravidique que j'ai eue, n'était pas génétique et donc ne risquait pas de se produire à mes autres grossesses. Et donc, là, soulagement, je peux faire un autre bébé sans être dans la crainte de retraverser tout ça. Parce qu'autant te dire que c'est pas pareil s'il y a un risque ou s'il n'y en a pas. Ça, j'ai attendu, je crois qu'on a eu les résultats, je dirais avril, tu vois, décembre, la deuxième cérémonie, avril, machin. Donc déjà, premier soulagement, c'est pas génétique. Donc un jour, je pourrais envisager d'avoir un enfant. Et puis là, figure-toi que ben, direct après cette nouvelle, par accident, s'est installé un petit Tao dans mon ventre. Il n'était pas du tout prévu si tôt. On n'avait pas encore pris la décision. On savait qu'on réessayerait, si tu veux, parce que son papa et moi, on a toujours eu très envie d'être parents. Mais j'étais carrément pas prête, hein. Clairement, il faut dire les choses comme elles sont. Et c'était pas du tout prévu qu'il s'installe là. Mais finalement, il a fait partie intégrante. Alors c'est un peu lourd pour ses épaules, mais il a fait partie intégrante de ma renaissance, de ma réconciliation avec la vie. Il m'a guéri, il m'a guéri et il me guérit encore aujourd'hui. Tao a pris place dans mon petit ventre. Il était prévu pour janvier 2013. Et un mois et demi avant la naissance, j'ai été hospitalisée parce que mes constantes n'étaient pas super, mes analyses non plus, j'avais de la tension, enfin de l'hypertension, et puis une petite infection, tu vois, j'avais un rhume avec un peu de fièvre, un peu de machin. Donc bien sûr, avec mon
T'étais
passé.
plus surveillée du coup par rapport à ce qui s'était passé?
Ouais,
Ouais,
j'étais
ok.
plus surveillée. J'ai eu une grossesse qui s'est quand même bien passée. J'ai été un peu malade, tu sais, au début, mais rien de transcendant. Heureusement, j'ai pas été malade à la fin, tu sais, pas de vomissements et tout, parce que sinon, ça m'aurait fait paniquer, je pense.
Ouais,
Et
t'avais peur de ça?
ouais, voilà, ouais, carrément. Et j'étais bien sûr très suivie. Dans le dernier trimestre, la sage-femme venait tous les jours prendre mes constantes, écouter le cœur, etc. Une sage-femme géniale, d'ailleurs, sur Saint-Médard-en-Jalles, à côté de Bordeaux, qui s'appelle Sandrine Février. Si vous avez
Allez hop.
l'occasion, elle fait des, voilà, elle est
Un petit coup de
absolument,
pub.
ouais, mais elle est vraiment géniale et c'est vrai qu'encore une fois, ça fait la différence, tu sais, quand on est accompagné, entouré, etc. Donc, j'ai fait préparation à l'accouchement, j'ai continué à, voilà, à méditer, etc. J'étais submergée encore, hein, par des grands moments de tristesse pendant la grossesse, des grands moments d'inquiétude, forcément. Alors qu'à la base, je suis quelqu'un de pas du tout angoissé et tout. Forcément, la grossesse de Tao, ben le moindre, quand je sentais pas les coups de pied, quand
Eh oui.
j'étais, voilà, les moindres choses étaient alertes et ouais, j'étais un peu, j'étais dans l'ultra attention, tu vois, j'étais attentive aux moindres choses. Et quand je suis allée à la maternité parce que j'avais ce rhume-là, cette fièvre. Ben, ils m'ont gardée, hein, clairement, de début décembre jusqu'à l'accouchement. Donc, j'ai passé un mois à la maternité de Bordeaux-Nord. Parce que, je te dis, ma tension était pas bonne, ça allait pas. Et puis, très vite, ils ont évoqué des signes de préclampsie. Alors, j'étais encore une fois entourée d'attention par le personnel médical, ma famille, mes proches. Enfin, voilà, c'est vrai que je tiens à le préciser parce que c'est vraiment très important dans mon histoire, toute cette attention. Et puis, mais j'étais entre de bonnes mains et sous bonne surveillance. Et tu vois, là, j'étais entendue, forcément, avec mes antécédents. Le moindre chose que je disais, ils en tenaient compte. Tu vois ce que je veux dire sur mon
Bien
état,
sûr.
sur ma fatigue, sur quoi que ce soit. Et puis, mon obstétricien, que j'aime beaucoup aussi, qui est assez drôle. Il arrive le 24 décembre au matin en me disant que les analyses sont vraiment pas bonnes, qu'il veut prendre aucun risque. Il me demande si ça me dirait d'avoir un bébé pour Noël. Et je lui dis que ouais,
Ah.
ça me plairait vachement. Et donc, le 24 décembre à 14h, il a déclenché, il a fait une césarienne et Tao est né.
Ça
Sauf
est né
que
le
j'ai
24
fait ma
décembre, là.
foutue pré-éclampsie, que
Ah.
j'ai perdu énormément de sang et que j'ai fait une hémorragie, tout ça, machin. Enfin, pré-éclampsie, tu vois, c'est la merde. Et que du coup, j'ai été dans les vapes pendant 6 heures à l'arrivée de Tao. Et je me souviens, en fait, je levais mes yeux, tu sais, je le regardais, parce qu'ils l'ont laissé à côté de moi, bien sûr, heureusement. Et je regardais, je fais, oh là là, il est vivant, il est trop beau. Et hop, je repartais dans les vapes.
Ah.
Mais c'était, tu vois, c'était pas cool quand même. Césarienne, bam, préclampsie.
Ouais.
Puis alors, moi, je t'en parle avec détachement, parce que n'importe quelle personne qui a une préclampsie t'en parle de manière dramatique.
C'est
Mais moi, je
clair.
faisais tellement du pipi de chat par rapport à ce que j'avais voulu. Et puis, j'avais un bébé vivant, si tu veux, le reste,
Ouais.
je m'en foutais. Mais c'est quand même costaud, hein. J'ai été très faible très longtemps. Mais je m'en foutais. Il était là, il était beau, il était vivant. Et en plus, merci l'univers, c'était un garçon. C'est pas que je voulais pas une fille, hein, loin de là. C'est que j'avais pas envie que s'en suive une fille. J'avais trop peur de faire un amalgame. Tu vois, il en avait déjà assez lourd sur ses épaules pour ne pas en plus être une fille, quoi. C'était très bien qu'il soit un garçon. Et j'ai eu un bébé facile. J'ai envie de te dire bien entendu parce que ben, les enfants arc-en-ciel, c'est souvent ça. Tu sais, l'enfant suivant, il vient souvent apaiser plein de choses. Il vient souvent. C'est un bébé soigneur. C'est un enfant hyper sage. Toutes ses maîtresses me disent qu'elles en voudraient 30 comme lui. Il est parfait. Il faisait ses nuits. Il pleurait pas. Il bougeait pas. Il a 11 ans aujourd'hui. Il va très bien. Et presque 3 ans après, là, je l'ai décidé, je l'ai voulu, j'ai arrêté de me protéger. Alors oui, parce que je pouvais plus prendre de pilules et compagnie. Donc, du coup, on a décidé, voilà, de plus se protéger et d'avoir Nora et qui s'est installée 2 semaines après que j'ai arrêté la protection, qui est absolument l'opposé de son frère, qui est né le 14 octobre 2015. Qui est pleine de joie, pleine de vie, qui remue sans cesse, qui escalade, qui a peur de rien, qui est lumière, sociable, solaire, hyper à l'aise dans ses baskets. Et c'est la seule de mes grossesses et de mes accouchements que j'ai eu l'impression de contrôler et puis d'être moi-même, tu vois, de pas être triste, de pas être submergée par
Ouais,
l'angoisse,
ok.
etc. Et donc elle est vraiment, elle me ressemble, tout le monde le dit. Elle a ce côté dans le partage tout le temps, un peu trop. Elle est un peu trop tout, Nora. Elle remue un peu trop, elle parle un peu trop. Et donc voilà, et elle, j'ai quand même pas eu de bol non plus, parce que je croyais dur comme fer que j'allais réussir à accoucher par voie basse pour elle aussi, puisque Maïna, malgré tout, j'avais réussi, tu vois. Et donc c'était un peu un moyen de me réconcilier avec mes accouchements et tout. Puis non, en fait, au dernier moment, ça travaillait trop sur mon col et tout. Et donc, césarienne aussi pour ma petite puce. Et je remonte du bloc. Elle, j'étais consciente, donc j'ai pu faire tout bien comme il faut, l'accueillir, etc. J'en revenais pas. Elle ressemblait, enfin, mes trois enfants sont des triplés décalés en fait. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et du
elle
coup,
ressemble à Maïna.
Ben ouais, elle ressemble à Maïna, ressemble à Tao. Enfin, tu vois, j'ai fait trois jumeaux décalés, quoi. Enfin, trois des triplés hein, décalés. Donc c'était dingue ses grands yeux. Mais le fait qu'elle avait les grands yeux ouverts, que c'est une enfant qui a été tout de suite très éveillée en fait. Tu vois, elle te suivait du regard et tout. Mais j'en revenais pas, quoi. Tu vois, elle était pleine de vie. Nora, c'est ça. C'est, elle respire la joie, la vie. Elle est là. Elle te fait sans cesse entendre et te rappelle sans cesse qu'elle existe. Et là, mes analyses reviennent et c'est pas bon. J'ai une suspicion d'embolie pulmonaire. La seule chose que j'adore dans mes post-accouchements, c'est l'allaitement. J'ai allaité Tao 11 mois et Nora presque 10. Et donc, il me tardait. Et ils me disent, il faut qu'on descende direct au scanner, là, il faut qu'on voit ça, ça va pas du tout. Et donc, bon, mais je descends, donc je laisse mon nouveau-né, tu vois, dans ma tête, j'étais, ils vont jamais me laisser tranquille. Et je descends faire l'examen qu'ils me demandent. Et là, je tombe sur un infirmier un peu maladroit, mais en même temps, il connaît pas mes antécédents, si tu veux, et tout. Il me dit, par contre, là, on va mettre un produit de contraste, donc l'allaitement, c'est mort. Hein. Et je fais quoi? Ah mais non, là, vous pourrez pas allaiter, hein, parce que tu sais, c'est l'iode là qui rentre dans ton...
Bien sûr, ouais.
Et donc, du coup, il me dit que c'est foutu, que je pourrais pas lancer l'allaitement, quoi. Et du coup, bah là, je fends en larmes, tu sais, les hormones, être séparée direct, bam, de ma fille, l'examen, le risque d'embolie pulmonaire et tout. Là, Julie, elle craque. Et j'en dis, non, c'est pas possible et tout, machin, j'adore l'allaiter, je vais pas pouvoir l'allaiter, mais je vais jamais avoir les accouchements et les grossesses et les postpartum que je veux. Et machin. Ma mère, elle est là, elle essaye de me rassurer, de me dire, c'est pas grave, on va y arriver. Ce qui est important, c'est de voir que t'as rien et tout, et puis elle est vivante, elle est là, elle va bien, enfin. Et puis heureusement, je suis tombée sur une sage-femme, là, une maman africaine qui est géniale, qui doit toujours travailler à Bordeaux-Nord d'ailleurs, si elle m'entend elle aussi. Qui me dit pas, ben on s'en fiche, on va tirer le lait, on va le jeter et puis on va attendre les trois jours que le produit soit
sorti
pour pouvoir donner un bibi. Et ben écoute, ils lui ont donné les petits bibis là juste pendant les trois jours. Donc j'étais frustrée certes, mais j'ai bien tiré, bien jeté mon lait, bien tiré, bien jeté mon lait. Et puis j'ai mis Nora au sein le quatrième jour, ben comme si de rien n'était. Donc j'ai pu avoir ma revanche un petit peu.
Et tu t'es séparée du papa après ?
Et je me suis séparée du papa. Donc en fait. Alors, si on prend le côté spirituel, je pense qu'on devait tous les deux vivre cette épreuve, s'apporter ça, traverser tout ça ensemble et se séparer par la suite. Si on prend le côté concret, Arnaud est un papa très aimant et qui, comme moi, a bien pris conscience de la chance qu'on a d'avoir Tao et Nora vivants, etc. Donc, dans nos rôles de papa et de maman, je pense qu'on est pleinement épanouis et qu'on est plus qu'heureux et comblés, mais qu'on s'est perdu et détaché et qu'on a fini par se séparer. Nora avait 4 ans. Et je partage la vie d'un homme formidable qui s'appelle Julien, qui n'a pas d'enfant, qui s'entend très bien avec les miens. Et lui, Arnaud, a refait sa vie avec une femme qui s'appelle Anaïs, qui est adorable, qui a 3 enfants de son côté. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. De toute façon, je ne sais pas ce qui me reste à vivre, mais j'aimerais bien que ce soit plus paisible, calme, avec moins de turbulences.
Bah, je te le souhaite. Hein.
Et je répète à l'univers, c'est bon, j'ai compris les
messages. Ouais, c'est bon, j'ai compris.
Il n'y a plus besoin de m'envoyer des épreuves, ça va. J'ai soigné ce qu'il y avait à soigner, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre. Donc voilà, et je profite pleinement de chaque moment, comme tu as bien compris.